Nous étions arrivés au chapitre 12, n'est-ce pas, le grand. N'est-ce pas, c'est bien ça. Et dans le chapitre 12, nous avions commencé, c'est-à-dire, c'est dans l'Apocalypse, sûrement que le chapitre 12 tient un lieu, une place très importante, parce que je crois que c'est le chapitre qui nous donne la clé de la signification de la lutte. Avant, il y a le point de vue des sceaux, puis le point de vue des trompettes. Le point de vue des sceaux, ce sont les décisions, les trompettes, les exécutions. Et lorsqu'il chapitre du chapitre 12, c'est comme un moment de réflexion sur la signification de la lutte. Et ce chapitre, avec le chapitre 13 et 14 qui suivent, ont justement ce genre de signification très très différente que ce qui précède. Alors, nous avions vu déjà le point de départ de ce chapitre 12 qui nous montre la tension, l'opposition qui existe entre la femme et le dragon. Et je vous disais, la femme, c'est premièrement Marie, deuxièmement l'Église, troisièmement la créature, dans sa fragilité, c'est-à-dire la femme et en même temps l'homme, c'est la créature benjamine, ce qui explique toujours le point de vue de la femme à travers toute l'écriture, c'est la benjamine, c'est-à-dire la dernière. Dans la famille divine, la femme et l'homme sont les benjamins comparativement aux anges. Et le dragon est face à la femme, alors le dragon qui apparaît ici, le dragon rouge feu, dans sa colère, ayant 7 têtes et 10 cornes, le déséquilibre qui est présenté ici, en montrant que si l'intelligence du démon est restée la même, puisque 7 têtes expriment justement la plénitude de son intelligence, cependant cette intelligence n'est plus ordonnée à l'amour, mais elle est ordonnée à la puissance, au pouvoir, les 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes, et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Alors on voit l'espèce de mépris terrible du dragon. C'est pour ça que dans ce dédain, si vous voulez, c'est sa queue qui traîne le tiers des étoiles du ciel, pour bien montrer son désir de destruction à l'égard de notre monde physique. Il les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une houlette de fer. Et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, pour qu'on lui nourrisse pendant 1260 jours. Je ne reprends pas cela, puisque nous l'avions vu la dernière fois. Alors, toujours, dans l'Apocalypse, cette chose très difficile à comprendre, puisque nous passons d'un niveau d'intelligibilité, d'un niveau de compréhension à un autre niveau, et non pas nécessairement respectant une espèce de succession temporelle, puisque l'Apocalypse n'est pas une vision historique, c'est une vision d'extase, donc une vision divine sur la succession des luttes de l'Église. Et de l'Église dans sa dimension de lutte. Et c'est pour ça qu'ici, après avoir montré l'opposition, la tension entre la femme et le dragon, et avoir fait comprendre cette espèce de tension qui existe entre les deux, on nous montre comment le dragon est présent à la femme. Et alors, c'est là où il montrait il y eut une guerre dans le ciel. Donc on va passer de la tension de la femme et du dragon à cette intelligence première de la lutte. Autrement dit, la première lutte n'est pas une lutte qui se passe sur la terre, mais la première lutte est une lutte qui se passe dans le ciel. C'est la lutte au niveau angélique. Et cette lutte au niveau angélique est présentée de cette manière ici. C'est le seul lieu, hein, dans toute l'écriture où on a de fait cette lutte angélique. Il y a d'autres lieux dans l'écriture, dans les prophètes, où on nous montre l'exaltation qui s'est produite, l'orgueil de la première faute. Comme, alors les pères de l'Église ont toujours interprété comme étant l'exaltation du démon. Mais ce n'est pas aussi explicite qu'ici. Donc autrement dit, l'Apocalypse, par rapport à ce que représente la lutte angélique, c'est le livre le plus explicite. Et c'est dans la lumière de ce qui nous est montré ici que toute la théologie sur les anges et le dragon a pris naissance. Il y eut une grande guerre dans le ciel, Michael et ses anges faisaient la guerre au dragon. Et le dragon fit la guerre avec ses anges. Et ils n'eurent pas le dessus. Et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Le ciel représentant le lieu de la contemplation. Et dans ce lieu de la contemplation, cette guerre fait que, de fait, les anges qui se sont révoltés contre Dieu ont perdu leur contemplation. C'est pour ça que c'est manifesté de cette manière, et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Et il fut jeté, le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et le Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. C'est la charité fraternelle de Michael, hein, qui nous a jeté le dragon parce qu'il ne pouvait plus supporter le dragon dans le ciel. Là, il faut bien comprendre cette chute. Il faut bien comprendre ici aussi, je crois, ces symbolismes successifs sur l'ange dans sa lutte contre Dieu. C'est d'abord le dragon, parce que c'est l'Apocalypse qui nous montre le dragon. Je crois que le dragon, et le grand dragon, c'est important de souligner, c'est celui qui est anti-père. Le démon est anti-trinité. Hein. Alors il nous est montré ici, selon trois symbolismes différents, son opposition particulière. Il est anti-père, et ça je crois que c'est un des aspects très importants à souligner par rapport au démon, parce que nous le voyons d'une façon assez nette dans le chapitre 8 dans Saint Jean. Saint Jean nous aide à comprendre l'Apocalypse, l'Évangile de Saint Jean, et l'Apocalypse nous aide à comprendre l'Évangile. Il y a une espèce de réciprocité constante dans l'Évangile et dans l'Apocalypse, qui est assez normal. Et ce qu'on trouve exactement la même chose dans Saint Luc. Il y a l'Évangile de Luc et il y a les Actes des Apôtres. Alors l'Évangile de Luc nous fait comprendre les Actes des Apôtres, les premiers pas de l'Église, et Jean nous montre l'Évangile, c'est-à-dire la vision sur Jésus, et il nous montre lui la lutte dans son paroxysme, c'est-à-dire dans son moment ultime que l'Église doit vivre. Je crois qu'il y a un parallèle, et du reste, c'est un fait que les exégètes, les meilleurs exégètes de Luc et de Jean soulignent toujours. Il y a une espèce de dépendance de Luc par rapport à Jean, puisqu'il semble bien que Jean aurait été une des sources de Luc, et que, de fait, ce que nous voyons, la vision sur le Christ dans Luc et la vision du point de départ de l'Église, est complétée dans la vision ultime du Christ dans Jean avec le point de vue ultime de l'Église. Vous voyez, autrement dit, si on voulait bien comprendre, il y a quatre points qui doivent toujours s'éclairer mutuellement, analogiquement, pour comprendre le parallélisme de l'un à l'autre. Luc, c'est le début, Jean, c'est le terme. Il y a toujours un parallélisme entre le point de départ et le terme. Et il y a de fait une comparaison assez nette, qui est intéressante du reste, qui je crois nous donne un peu l'intelligence de ces textes difficiles à saisir, surtout quand on ne voit qu'un seul texte, et ça nous aide à saisir ce qui nous est montré. Bien, je crois que c'est assez net quand il s'agit de cette grande lutte du démon par rapport au Père. C'est dans le chapitre 8 dans Saint Jean. On voit bien que Jésus dénonce « Votre Père, c'est le diable. » Il dit ça à son peuple. C'est, je crois, la critique la plus pénétrante que nous avons dans l'Écriture de Jésus par rapport à Israël. Pour montrer que le démon essaie toujours d'usurper le titre de père. Le démon n'a plus aucune autorité. Il n'a qu'un pouvoir. Il a un grand pouvoir. Dieu lui a laissé un grand pouvoir. Le grand dragon. Ça exprime ce pouvoir. Un pouvoir tyrannique. Mais il a un grand pouvoir. Et il voudrait avoir une autorité. Et une autorité paternelle. Et c'est, je crois, dans le chapitre 8 dans Saint Jean, que nous le voyons. Et ici, il nous est montré le dragon, le grand dragon, donc ayant ce pouvoir contre la femme étant la petite bien-aimée du Père, Marie, l'Immaculée. Mais il faut bien saisir cela. Il y a donc une espèce d'opposition très particulière entre la femme et le dragon, comme il y a eu une première opposition entre la femme et le serpent. Ce n'est pas la même opposition, ce n'est pas la même tension qui existe entre les deux, mais elles s'éclairent mutuellement. Alors donc le dragon, c'est d'abord l'antipère, celui qui a aucune autorité et uniquement un pouvoir, alors que le père, dans le mystère même de la révélation du père, c'est celui qui a toute autorité et qui n'exerce aucun pouvoir sur son fils bien-aimé. Il n'a que l'autorité. Alors, il y a une espèce d'antithèse violente qui, je crois, est très importante à saisir au point de vue théologique. Parce que c'est peut-être un des aspects que nous vivons très fort aujourd'hui. C'est que le pouvoir veut l'emporter sur l'autorité. Et que le pouvoir de fait constamment veut remplacer l'autorité. L'autorité étant quelque chose de tout autre. Il y a une distinction entre les deux. L'autorité a besoin de pouvoir pour être efficace. C'est bien évident. Et donc le pouvoir n'est pas mauvais de soi. Le pouvoir devient mauvais quand il s'oppose à l'autorité. Qu'il étouffe l'autorité. Alors ça, c'est la dialectique hégélienne. La dialectique hégélienne n'est pas entre le maître et l'esclave. La dialectique hégélienne est entre celui qui a le pouvoir et l'esclave. Et ça, je crois que c'est très important pour mieux comprendre. Et là, dans l'Apocalypse, c'est très curieux, c'est que ça nous est montré. C'est que, de fait, le dragon, il a uniquement un pouvoir sans autorité. Le serpent, c'est l'anti-verbe. C'est pour ça que c'est le serpent rusé. C'est l'antique serpent, celui qui veut avoir une espèce de prudence, d'expérience, qui remplace la sagesse du verbe. Et c'est l'anti-sagesse. Et le diable et le Satan, c'est l'anti-Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est le paraclet, on pourrait dire l'anti-paraclet. C'est Satan et le diable. C'est assez net, hein, de voir qu'il y a comme ces trois symbolismes, parce qu'au fond, le symbolisme a l'avantage qu'il peut exprimer la même réalité, mais sous trois aspects différents, sous trois lumières différentes, en mettant en lumière tous les aspects des fonctions. Le démon a une triple fonction, Lucifer, si vous voulez, une triple fonction, anti-père, anti-sagesse, anti-paraclet. Celui qui égare les hommes, le monde entier, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors nous avions essayé la dernière fois, je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus, un problème très important, d'essayer de comprendre ce que les grands théologiens, ce que les pères de l'Église n'ont cessé de voir, et que, de fait, dans la théologie moderne, on abandonne complètement, parce qu'on est pris par d'autres points de vue, c'est ce que représente la lutte angélique. Qu'est-ce que ça représente? Comment expliquer le point de vue de la chute de Lucifer? Comment expliquer que Lucifer devient dragon, autrement dit, la métamorphose, de Lucifer en dragon, de Lucifer en serpent, de Lucifer en Satan? Parce qu'il est bien évident qu'il n'a pas été créé comme dragon, il n'a pas été créé comme serpent, il n'a pas été créé comme Satan. Il est devenu dragon, il est devenu Lucifer, il est devenu le serpent, il est devenu le diable. Alors, c'est cette faute première qui, je crois, est très importante au plan théologique, parce que c'est le nœud de la compréhension de toute la lutte. Alors, il est bien évident que si on veut aller jusqu'au bout pour l'intelligence du combat dans lequel on est, à tous les niveaux, le combat politique, le combat humain, quand je dis le combat humain, je veux voir le combat de l'homme dans ses libertés fondamentales, et le combat chrétien. Il y a quand même toujours des niveaux différents. Si on veut comprendre, au point de vue chrétien, la signification dernière du combat, je crois qu'il faut toujours revenir à cette faute de Lucifer. Puisque, de fait, on ne peut agir, et donc les tentations du démon et les séductions du démon ne peuvent se comprendre qu'à partir de la faute de Lucifer. On ne peut agir que dans la mesure où l'on est. Le vieil adage, n'est-ce pas ? Agens, agit, simile, sibi. Donc chacun agit selon qu'il est semblable, selon ce qu'il porte en lui. Donc selon le venin qu'il a en lui. Autrement, on ne comprend pas ce que c'est que le serpent. Et on ne peut pas comprendre ce que c'est que le dragon si on ne voit pas cela. Et c'est à partir de là, il ne faut pas l'oublier, que s'est faite cette théologie du péché de Lucifer. Il nous est révélé les séductions de Lucifer. Là, il y a une grande théologie qui n'a pas été du reste très faite, qui serait très intéressante à faire. Le disque des tentations du démon. Je crois que ce serait quelque chose de très très beau à faire, quelque chose de très sensationnel, le disque des tentations du démon, parce que on verrait des registres qui reviennent tout le temps. Il faudrait voir sur quelle musique il faudrait le faire, mais au fond, les disques des tentations du démon, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Depuis la séduction première à l'égard de la femme, jusque la tentation du dragon. Et le dragon, alors, prenant une tactique d'encerclement et d'enveloppement, la stratégie de l'enveloppement du démon, par le point de vue de la bête de la terre et la bête de la mer, et de retrouver à travers tout l'évangile de Jean, parce que l'évangile de Jean, à ce point de vue-là, est particulièrement lumineux, et je crois qu'il est lumineux parce que Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse. Ayant reçu la révélation d'Apocalypse, il a beaucoup mieux compris que les autres ce que pouvaient représenter les tentations de Jésus au désert. Il n'en parle pas, ou plus exactement, je crois qu'il a été celui qui a communiqué ça à Luc. Parce que je crois que tout ce qui a été communiqué par Jean à Luc, on ne le retrouve pas dans l'évangile de Saint Jean, ce qui est normal. Et Jean a communiqué autre chose. Il a vu que le démon ne s'avouait jamais vaincu. Donc quand Jésus dit « Retire-toi », on sait très bien que le démon reviendra, mais sous une autre forme. Il reviendra sous la forme de la bête de la terre et la bête de la mer. Et que tout l'évangile de Jean nous montre comment Jésus va être attaqué par la bête de la terre et la bête de la mer. Et la bête de la terre et la bête de la mer, dans l'évangile de Jean, ce n'est plus au niveau symbolique, c'est au niveau du Sanhédrin, au niveau des grands prêtres, au niveau de Judas. Donc cette complicité qu'il y a dans ces attaques progressives pour aboutir à ce que Jean lui-même nous montre, ce que représente le rôle de Pilate. Pilate fait aussi partie d'une certaine façon de la bête de la terre et de la bête de la mer, c'est sûr. Et c'est intéressant alors de comprendre à travers l'évangile de Saint Jean toutes les grandes luttes. Parce qu'on voit très bien que c'est très net, qu'il y a des ornières qui se creusent de plus en plus dans le peuple d'Israël auprès de Jésus, pour aboutir à cette espèce d'éclatement en face de Pilate, quand les grands prêtres mènent le jeu. Parce que Jean nous le montre, c'est les grands prêtres qui ont mené le jeu. C'est les grands prêtres qui sont arrivés petit à petit à faire que le peuple d'Israël soit unanimement à crier « crucifiez-le » face à la crainte, à la lâcheté d'un Pilate. Il fallait les deux, il fallait la complicité des deux. Judas jouait son rôle là-dedans, mais c'est les grands prêtres qui ont joué le rôle principal, dominant. La jalousie des grands prêtres. La jalousie fraternelle n'est jamais très drôle, c'est la première qui nous est montrée, et la dernière, c'est la jalousie pontificale. Parce que les jalousies pontificales, évidemment, vont avec une espèce de force tout à fait particulière. Et c'est, je crois, la dernière jalousie qui nous est montrée dans l'évangile de Saint Jean. Alors, cette faute de Lucifer ne peut être qu'une faute d'orgueil. Une faute d'orgueil, c'est toujours une complaisance de l'intelligence sur soi, sur la qualité de notre intelligence, qui n'accepte pas que l'amour puisse passer devant. Et je crois que si on regarde cette faute d'orgueil de Lucifer, c'est la première faute qui a entraîné toutes les autres fautes. Et donc c'est par cette faute d'orgueil que le mal, que les ténèbres sont entrées dans l'œuvre de Dieu, sont entrées dans le monde angélique et sont entrées dans notre monde, puisque Lucifer, le dragon, a été précipité sur la terre, et en étant précipité sur la terre, il est devenu serpent. Il faut bien comprendre l'Apocalypse. Il est toujours resté dragon, mais il est devenu serpent. Alors je crois qu'on peut saisir le contenu de cette faute d'orgueil. Parce que toujours une faute d'orgueil a un contenu. Autrement dit, la faute d'orgueil se concrétise sur un point. Les psychologues diraient une motivation, si vous voulez. Ça a une motivation particulière. Sur quoi s'est concrétisée cette faute d'orgueil? Et je crois, alors en reprenant la grande tradition augustinienne, que saint Thomas a repris en partie, de voir que cette faute d'orgueil s'est concrétisée sur la communication que Dieu a faite aux anges, les anges ayant été créés dans la foi, ils ont connu une épreuve. Le mystère de la foi, c'est pour que nous connaissions des épreuves. Je dirais, la foi nous rend capables d'être éprouvés par Dieu. C'est le propre de la foi. Et le croyant, c'est celui qui subit des épreuves successives. Chaque fois en vue d'aimer plus. Chaque fois en vue d'aller plus loin. Les anges, s'ils n'avaient pas été créés dans la foi, n'auraient pas été capables d'être éprouvés. Il fallait qu'ils soient créés dans la foi pour être éprouvés. Et pour connaître ce que c'est que l'épreuve. Et ça, c'est très important. Et ça, toute la grande tradition, et je dirais, il faut vraiment les temps modernes pour comprendre que l'ange des ténèbres s'est changé en ange de lumière, pour que, de fait, on rejette complètement cela. Mais la grande tradition théologique, avec des variantes du reste, parce que la tradition théologique a beaucoup de variantes, mais de fait, là, on peut dire qu'il y a une donnée commune. Je crois que cette faute d'orgueil s'est concrétisée devant le fait que Dieu a révélé aux anges qu'ils seraient créateurs du monde physique et que c'est à travers ce monde physique que Dieu réaliserait son chef-d'œuvre, l'homme et la femme. Ce qui explique ce qui nous est montré à travers l'Écriture, l'inimitié, l'opposition farouche qui existe entre la femme et le serpent. Cette opposition, c'est parce que la femme est pour le dragon insupportable. Elle est l'homme aussi, mais spécialement la femme. Ça, c'est sûr. C'est pas la Benjamine, c'est la dernière. Et c'est elle qui exprime le mieux toute cette création du monde physique en vue d'une communication plus grande d'amour. Si Dieu a créé ce monde physique, c'est pour pouvoir communiquer à certains êtres vivants la capacité d'être source de vie. Donc, le mystère de la fécondité. Il est bien évident que si nous regardons attentivement ce texte, le motif de rage du démon, c'est la fécondité de la femme. Il est en arrêt devant la femme qui enfante. Ça ne peut pas être dit de façon plus claire. Et donc, c'est la fécondité de la femme, le fait que Dieu veut communiquer à des créatures la capacité d'être source de vie. Ce qui n'existe pas dans le monde angélique. Un ange n'est pas source de vie pour un autre ange. Dieu devait créer un monde matériel, un monde physique, et unir ce monde physique à l'esprit pour faire que ces créatures nouvelles, dernières, les Benjamines, puissent être capables d'être source de vie. Et donc, avoir à l'égard de Dieu une possibilité de recevoir un amour plus grand, un amour qui aille jusqu'à la fécondité. Et par là, avoir une expérience que les anges n'ont pas du mystère même de la fécondité de Dieu. Et donc, une pénétration plus grande dans le mystère même de la Très Sainte Trinité. Je crois que c'est là où nous touchons la révolte de Lucifer. Ce n'est pas digne de Dieu de réaliser un monde matériel. Ce n'est pas digne de Dieu de faire son chef-d'œuvre dans les plus petites créatures, celles où la limpidité de l'intelligence n'est pas absolue, celles où l'intelligence est liée à la sensibilité, à l'imagination, autrement dit, des êtres à la fois spirituels et des êtres biologiques, des êtres liés à la matière. Ce n'est pas digne de Dieu de faire cela. Je crois que c'est là la grande indignation. Péché d'orgueil pour défendre la dignité de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, Lucifer se fait défenseur de Dieu. La paternité de Dieu qui va jusqu'à communiquer son amour d'une manière telle que ce ne soit pas les plus intelligents qui soient les plus aimés. Ça, c'est indigne de Dieu. Ce qui est digne de Dieu, c'est que ce soit les plus intelligents qui soient les plus aimés. La hiérarchie angélique. Dans la hiérarchie angélique, la hiérarchie de l'amour et la hiérarchie de l'intelligence vont de pair. Alors que, créant un monde physique et réalisant dans ce monde physique son chef-d'œuvre, Dieu brouille les cartes. Vous voyez ? Et je crois que c'est ça qui nous donne l'intelligence, si vous voulez, du début de la Genèse. Autrement dit, dans l'Écriture, il y a comme un leitmotiv. C'est ce que dit toujours saint Augustin. Il dit, pour comprendre l'Écriture, il faut découvrir les grands leitmotivs de l'Esprit-Saint. Autrement dit, l'Écriture est un livre qui se comprend par lui-même. Vous voyez, alors que nous voulons aujourd'hui comprendre l'Écriture par les civilisations qui étaient du temps de tous les auteurs sacrés. C'est très intéressant. C'est pas du tout à négliger, mais c'est secondaire. C'est pas premier. L'intelligence de l'Écriture se fait, je crois, de l'intérieur même de l'Écriture. Parce qu'il y a une unité à travers toute l'Écriture. Or, c'est très curieux, quand vous regardez attentivement les deux, je vous l'ai déjà signalé, mais je le reprends maintenant parce que ça nous donne une intelligence par rapport à la faute de Lucifer. Quand je regarde les deux premiers révélations sur la création, les deux récits, c'est pas pour rien qu'il y a deux récits de la création. Le premier, c'est le récit Dieu crée par sa parole. Et c'est le récit de la primauté de la lumière. Et le second récit, c'est que Dieu ne crée plus par la parole, il y a le geste de Dieu. Il façonne le corps de l'homme. Il façonne le corps de la femme. Le second récit, c'est de montrer que le geste créateur de Dieu est un geste d'amour. Autrement dit, la création relève de la sagesse de Dieu et relève de la gratuité de l'amour. Alors on comprend comment la première création est avant tout une création de sagesse, premier récit, et le second, l'ultime moment de la création, quand Dieu crée notre monde physique, et dans ce monde physique, il crée l'homme et la femme, c'est le mystère de la gratuité de l'amour. Et l'amour va aller plus loin, puisque le chef-d'œuvre de Dieu, c'est la femme, c'est l'homme et la femme. Mais c'est la femme d'une certaine manière, d'une façon ultime. C'est celle qui va recevoir d'une manière plus profonde un lien d'amour avec Dieu, qui va avoir ce lien d'amour. Alors, on comprend cette opposition de cet intellectuel, c'est une opposition d'intellectuel à l'égard de l'amour, n'acceptant pas dans sa foi que l'amour puisse aller plus loin que l'intelligence. Autrement dit, n'acceptant pas qu'en Dieu, créateur, l'amour soit plus le principe de la création, la source de la création, que l'intelligence. En Dieu, lumière et amour ne font qu'un. Mais dès que Dieu se fait créateur, il peut communiquer plus la lumière ou communiquer plus l'amour. Aux anges, il communique davantage la lumière, mais Dieu ne se repose pas comme créateur après avoir créé les anges. C'est ce que Lucifer aurait voulu. Dieu aurait dû se reposer après avoir créé les anges. Or, Dieu ne s'est pas reposé après avoir créé les anges. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur le repos de Dieu. C'est une signification très profonde. Dieu s'arrête après la création de l'homme et de la femme. Et selon le second récit, Dieu ne s'arrête pas après la création de l'homme. Il ne se repose pas après la création de l'homme. Il se repose après la création de la femme. Pour bien nous faire comprendre, le point terminal de la création, c'est la femme. Et c'est cela que Lucifer n'a pas accepté. Il l'a refusé dans son orgueil. Il n'a pas du tout nié l'existence de Dieu. Il a rejeté ce plan de sagesse d'amour. Il s'est opposé à cela. Et à partir de là, il a perdu la foi, il a perdu sa capacité d'aimer. Et il est jeté sur la terre, parce que de fait, Dieu réalisant son œuvre malgré la révolte du démon, c'est bien ce que le prologue de Saint Jean nous montre, la lumière luit dans les ténèbres, et la lumière est la vie de l'homme. Et donc, il nous fait bien comprendre que malgré la révolte de l'ange, Dieu a continué son geste créateur. Il a réalisé notre monde physique. Je ne sais pas comment il l'a réalisé. Personne ne le sait, donc c'est très simple. On a des hypothèses. L'autre jour, je voyais quelqu'un qui me disait on devrait modifier au commencement et le ciel et la terre. On devrait dire au commencement était l'atome. N'est-ce pas ? Vous voyez, alors ça, c'est... Je lui dis non. Vous n'avez pas le droit de corriger le texte de l'Écriture. Vous savez. Votre science ne corrige pas le texte de l'Écriture. Parce que la science nous donne un langage symbolique, mais d'un symbolisme divin. Et la science ne sera jamais adéquate à ce symbolisme divin. Vous pouvez vivre dans une hypothèse, c'est une hypothèse. Très bien, c'est une hypothèse, mais ce n'est pas un regard divin. Alors quand il est dit Dieu crée le ciel et la terre, c'est un regard divin qui ne me dit pas du tout comment Dieu l'a fait. Ah ça, la foi ne dit jamais. La foi nous donne une finalité. C'est tout à fait autre chose. Un sens de la finalité. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? Et pourquoi Dieu a voulu que toute son œuvre créatrice s'achève sur l'homme et la femme? Et que le créateur termine son point d'orgue sur la femme. C'est ça que nous dit l'Écriture. Ça, la science ne le dira jamais. Il ne pourra pas le dire. Il pourra essayer de mettre des hypothèses. C'est très intéressant comme hypothèse. Mais ce n'est pas le mystère de la foi. Et jamais une hypothèse scientifique ne peut remplacer un symbolisme divin. Le symbolisme divin va beaucoup plus loin. Le symbolisme divin est reçu dans la foi, tandis que l'hypothèse scientifique est reçue dans notre intelligence scientifique, dans la mesure où notre intelligence scientifique est développée. Alors à ce moment-là, nous recevons cette hypothèse scientifique. Autrement, nous disons oui, très très bien, l'autorité des savants, mais pas plus. Si nous sommes capables de la critiquer, nous pouvons la recevoir. C'est très important, je crois, de comprendre ce grand duel qui a existé entre Dieu et Lucifer. C'est pas entre Michel et Lucifer, c'est la jalousie du dragon face à Michel. Vous voyez, et on parle du dragon tout de suite. Donc on ne parle pas de Lucifer. La lutte a été entre Lucifer qui n'a pas accepté cette épreuve. L'épreuve d'avoir comme petit frère et comme petite sœur, si je prends les termes de l'Écriture, c'est Jean à peau rouge, Adam. C'est les gens à peau rouge. Ils sont tirés de la glaise. Le démon n'a pas accepté de pouvoir avoir un commerce intellectuel avec des gens qui sont nés de la glaise, qui sont nés de la terre, qui sont nés de la matière. C'est insupportable. Une grande querelle de famille. C'est du reste très étonnant. C'est pas étonnant. Grande querelle de famille. Ils sont les fils aînés. Ils sont les fils aînés. Et les fils aînés ont leur droit de dire quelque chose par rapport au petit dernier, par rapport au cadet. Alors, on voit très bien à partir de là comment toute la tactique du démon, et c'est ce que nous allons essayer de comprendre, ça va être de fait de dévier l'homme et la femme de leur finalité propre pour montrer à Dieu que Dieu s'est trompé. Lucifer veut montrer que Dieu s'est trompé. C'est pour ça qu'il veut détruire cet univers, non pas lui-même, il ne veut pas le faire, mais par l'homme. Tout le désir du démon, c'est de montrer que l'homme est tellement bête, ce qu'il avait prédit. C'est idiot de la part de Dieu de mettre son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme. Ils ne sont pas très intelligents. Et donc, on va bien montrer qu'ils ne sont pas très intelligents. On va les mener par le bout du nez. Alors, on va faire que l'homme et la femme vont proclamer que Dieu n'existe pas. Et on va faire que l'homme et la femme, grâce à un pouvoir de plus en plus grand, vont détruire notre univers. Ça, c'est le but direct du démon, du dragon, du serpent et de Satan. C'est d'essayer de mener là. Alors à ce moment-là, il montrera par sa stratégie démoniaque que Dieu s'est trompé. Que Dieu n'était plus un père, mais un grand-père. Il y avait quelque chose qui marchait plus très bien. Que la bonté de Dieu était trop grande. Parce que, comprenons bien, l'ange s'engage totalement, Lucifer s'engage totalement dans sa révolte contre Dieu. De sorte qu'il est toujours le même dans sa révolte. Il n'a pas changé. Et il est persuadé d'avoir la victoire. Il est persuadé. Il a été persuadé d'avoir la victoire au moment de la mort du Christ, parce qu'il a cloué sur le bois la toute-puissance de Dieu, les bras de Dieu, et alors il était persuadé d'avoir la victoire. Et le mystère de la résurrection, il ne veut pas le regarder. Le démon peut ne pas, il ne cherche plus la vérité. Donc, il peut avoir cette puissance extraordinaire de refuser ce qui n'est pas dans sa vue. C'est pour ça qu'il est source des idéologies. Parce que c'est un idéologue. Ça, c'est évident. Il est conduit par son idéologie. Et toutes les idéologies athées que nous voyons proviennent de cette idéologie première. Le démon fait passer avant tout son idéologie. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est que cette idéologie se trouve réalisée. Alors, nous continuons, si vous voulez, après avoir fait ce petit arrêt pour la guerre dans le ciel et montré que la première faute, c'est une faute d'orgueil, une faute d'opposition vis-à-vis de la sagesse de Dieu et du primat de l'amour. Et j'entendis une voix forte dans le ciel. Elle disait, c'est à présent le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Donc on annonce là que la grande réponse à la faute du démon, ce sera que Dieu continue son œuvre de créateur, laissant au démon un pouvoir d'intervenir, puisqu'il est fils aîné, qu'il a un droit d'aînesse sur les cadets, et Dieu ne veut pas l'anéantir dans sa sagesse. Et donc Dieu lui laisse son pouvoir de fils aîné. Et c'est ce qui explique comment il intervient. Et il intervient d'une manière telle qu'il détourne la femme. Et détournant la femme, il détourne l'homme. Ce que nous voyons au début de la Genèse. Et la réponse de Dieu à ce détournement, détournement de mineur, ils ont voulu le dire, parce que la femme, comparativement au dragon et à Lucifer, elle est justement inférieure. Il l'a séduite. Et il l'a orienté vers quelque chose qui n'est plus de Dieu. Alors la grande réponse de Dieu, ce sera le mystère du Christ et le mystère de la maternité divine. Alors on comprend comment la femme, par excellence, c'est Marie, celle qui nous est montrée ici. Puisque la première femme s'est laissée séduire. Et la réponse de Dieu à la séduction de la première femme, ce sera de réaliser une super femme, une femme qui sera plus femme que toutes les autres femmes, c'est-à-dire plus benjamine que toutes les autres femmes, plus fragile que toutes les autres femmes, plus capable d'aimer que toutes les autres femmes, plus médiatrice dans l'ordre de l'amour que toutes les autres femmes. Ce sera Marie. Et en même temps, celle qui sera la plus aimée au point de vue divin, être à la fois la clé de voûte au niveau de la création et au niveau de la recréation. Marie est la clé de voûte. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce qu'est la création sans regarder Marie, sans regarder la femme. Et nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce que c'est que la rédemption. Donc la grandeur du mystère de la croix, sans regarder Marie, sans regarder la femme, sans comprendre le mystère de l'Immaculé et le mystère de la maternité divine de Marie, puisque les deux font partie de la femme. La femme a cette double dimension dans l'amour. Elle est l'Immaculée et elle est la mère. Et c'est en ce sens-là qu'elle a cette double fécondité, et c'est bien cette double fécondité qui nous est présentée ici dans ce chapitre 12, et qui met la rage du démon, du dragon, à son comble. Et c'est le dragon qui attaque la femme, ici. C'est le dragon qui attaque la femme, c'est pas le serpent. Alors, nous essaierons de comprendre cela. En essayant de comprendre la stratégie du démon, parce que ça, c'est intéressant de voir au point de vue symbolique. Et j'entendis une voix forte dans le ciel, elle disait, c'est à présent le salut, la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors nous sommes dans un langage symbolique et mythique, en comprenant bien, c'est-à-dire que la logique n'est pas très présente, ça c'est bien évident. Il y a un télescopage de la logique qui est remarquable. C'est très beau, il y aurait ça. Parce que la logique ne nous donne pas l'intelligence des choses. Et ici, on nous donne une intelligence beaucoup plus profonde dans cette espèce d'attitude de discontinuité. C'est le propre de l'Apocalypse. Ce sont des discontinuités comme des lumières subites qui nous sont données successivement. Vous voyez ? Et on nous montre ici le rôle terrible du serpent, du dragon et de Satan, c'est qu'il est l'accusateur, il est le rapporteur. C'est celui qui ne cesse de rapporter à Dieu toutes nos fautes. Il nous accuse tout le temps. Il est celui qui est heureux de nos chutes, si vous voulez. C'est très curieux. Marthe Robin, n'est-ce pas ? J'ai bien connu, disait toujours que le démon, durant les nuits, parce qu'il venait quand elle était seule, et le démon ne cessait de faire passer devant Marthe des flashs, un cinéma, lui montrant la chute de tel, pour lui montrer l'inutilité complète de ses souffrances. Pour montrer l'inutilité complète de sa vie, pour la mener au désespoir. Vous voyez, c'est ça l'accusateur. Je crois que c'est très très fort. C'est celui qui veut nous désespérer. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est celui qui veut montrer que Dieu s'est trompé en mettant sa confiance dans l'homme et la femme. Dieu s'est trompé parce que, de fait, l'homme et la femme sont indignes de la situation que leur a donné Dieu, de faire en eux le chef-d'œuvre de la création. Car il a été jeté l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà les témoins, les martyrs. Les martyrs sont ceux qui sont victorieux de l'accusateur, victorieux du dragon, du serpent et de Satan. Évidemment, en premier lieu, Marie. Voilà pourquoi, exultez, cieux, et vous qui y séjournez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu chez vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Ça, c'est aussi une des considérations très importantes de l'Apocalypse. C'est de montrer que la fureur du démon augmente plus on s'approche du terme. Plus on s'approche du terme, plus la fureur du démon augmente parce qu'il a peu de temps. Et comparez ça, si vous voulez, à un chien qui a une grande chaîne. Quand la chaîne est très grande, ça va encore. Mais quand vous diminuez la chaîne, la fureur du chien augmente. C'est exactement ça. La fureur du démon augmente progressivement qu'on s'approche du terme. Et c'est pour ça que la fureur du démon, plus elle est grande, plus elle nous montre, nous, d'une façon très manifeste, qu'on s'approche du terme. Que le pèlerinage de l'Église touche le terme, et donc qu'on est tout proche du bientôt du retour du Christ. Alors, malheur à la terre, il faut bien comprendre ce que ça veut dire dans le langage de l'Apocalypse. Les habitants de la terre dans l'Apocalypse, ce sont les hommes qui ne regardent plus le ciel, c'est-à-dire qui ont perdu le sens de la contemplation, qui ont perdu le sens de la foi, et qui mettent leur bonheur uniquement dans les biens terrestres. Oui, ce sont ceux qui sont finalisés par la terre. C'est ça, je crois, le sens de malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu chez vous avec une grande fureur, donc c'est la colère du dragon, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle. Nous revenons au point de départ, vous voyez, cette petite parenthèse illogique qui est très très étonnante pour nous faire comprendre le point de départ. On est revenu au point de départ, il a été jeté sur la terre et c'est pour ça qu'il est en face de la femme. Mais c'est un signe dans le ciel. C'est donc une vision céleste sur le dragon et la femme, puisque c'est un signe dans le ciel. Si nous regardons ça uniquement avec une lumière horizontale, nous ne voyons pas le dragon. Le dragon n'est vu que dans une vision du ciel, c'est un signe dans le ciel. Donc il n'est vu que dans un regard contemplatif. Seul le contemplatif voit le dragon. Les autres, non. Parce qu'ils sont dans la gueule du dragon. Si on est dans la gueule du dragon, on ne voit pas le dragon. On arrive à avoir des mœurs qui soient tout à fait identiques aux siennes, mais on ne voit plus. C'est ça qui nous est montré ici. Hein. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, en un lieu, là où elle est nourrie, un temps et des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors le serpent revient ici, alors qu'avant c'est le dragon. C'est très curieux. Le moment où le dragon voit qu'il n'a aucun pouvoir sur la femme, alors à ce moment-là, c'est la ruse. C'est ça qu'il y a les deux moments. Il y a le moment du dragon et il y a le moment du serpent. Alors, voyez bien ce texte qui est aussi très important parce que ça montre la stratégie du dragon. La première chose, c'est le duel. Ça, c'est très vrai. En arrêt devant la femme. Intimidation par le pouvoir. Le pouvoir du dragon est évidemment infiniment plus grand que le pouvoir de la femme, au niveau du pouvoir. Le dragon a un pouvoir bien plus grand. La femme, si c'est premièrement Marie, elle est la petite servante de Dieu. Et la petite enfant de Dieu. Elle est la Benjamine. Elle n'a aucun pouvoir. Comme une servante. C'est ça que ça veut dire quand Marie dit qu'elle est servante. La servante, c'est celle qui n'a aucun pouvoir. Elle est toute relative à celui qui a l'autorité et qui a le pouvoir. Le dragon a un pouvoir beaucoup plus grand et donc il y a procédé d'intimidation. Comme ce procédé d'intimidation ne joue pas, et on voit très bien comment il ne joue pas, la femme qui a enfanté le mâle et les deux ailes du grand aigle fut donnée à la femme pour s'envoler au désert. À la différence d'Ève qui accepte le dialogue avec le serpent. Et en acceptant le dialogue avec le serpent, Ève se laisse rouler. Parce que si on accepte le dialogue avec le serpent, on est perdu d'avance. Le serpent étant beaucoup plus intelligent que nous, sachant bien mieux manier la dialectique que nous. Et donc on est perdu d'avance. Et c'est pour ça qu'ici, la femme par excellence, Marie, elle fuit au désert. Même Marie ne veut pas dialoguer avec le serpent, avec le dragon. Elle ne veut pas et elle ne doit pas. Et alors, c'est ce qui nous est montré, la manière dont Marie tourne le dos. Les deux ailes du grand aigle. Alors, les deux ailes du grand aigle, l'aigle, c'est l'Esprit Saint. L'aigle, le symbolisme de l'aigle, c'est aussi le Christ. Marie n'est pas l'aigle, mais elle est les deux ailes de l'aigle. Alors, les deux ailes de l'aigle, ça peut être la foi et l'espérance. Les deux ailes de l'aigle, ça peut être l'adoration, et la contemplation. Ce qui est sûr, c'est que les deux ailes de l'aigle donnent à Marie la capacité de devenir entièrement ignorée du dragon. Par ses deux ailes de l'aigle, elle échappe à la poursuite. Elle va au désert. Mais c'est évidemment un désert intérieur. Hein. C'est qu'autrement dit, par les deux ailes de l'aigle, Marie va être celle qui échappe à l'emprise du dragon. Le dragon ne peut plus rien. Elle va être au désert, uniquement relative à Dieu. C'est pour ça que je crois que ces deux ailes de l'aigle, c'est vraiment la foi et l'espérance. Dans l'amour, c'est bien évident, une foi tout aimante et une espérance tout aimante, qui se traduit dans l'adoration et qui se traduit dans la contemplation. Et alors là, elle échappe complètement. Elle est seule parce que de fait, son fils, qui est le Christ, lui, immédiatement, est ravi auprès du Père, auprès du trône du Père. Alors ça peut se comprendre de diverses manières. Hein. Ça peut se comprendre à la fin de la vie du Christ, l'ascension, et Marie reste seule. Ça peut se comprendre d'une façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus intérieur, c'est que le dragon sait très bien qu'il ne pourra rien contre le Christ, parce qu'il est Dieu. Mais que Marie étant une créature, il peut la détourner. Et il sait qu'il est capable de la détourner. Marie peut pécher. Elle n'est pas impeccable en droit. Elle est impeccable de fait, elle n'a jamais péché. Elle est restée toujours celle qui a été fidèle, mais elle aurait pu pécher. Et c'est ça, je crois, qui nous est montré là, ici, la différence entre la femme et son fils. Donc, elle s'envole au désert en son lieu, le lieu qui lui est réservé, où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. Alors, c'est ce qui était dit précédemment, sous un point de vue du chiffre, pour qu'on lui nourrisse pendant 1260 jours. Alors ça, c'est toute la symbolique des chiffres. La symbolique des chiffres est très très difficile, et elle est en même temps très simple.
Excusez-moi de vous interrompre un instant, pour revenir à la guerre. Pourtant, Satan, dans l'Évangile, essaie de tenter le Christ,
oui,
contre lequel pourtant il sait ne rien pouvoir.
Et vous savez pourquoi il tente le Christ ? C'est pour savoir si tu es le Fils de Dieu. C'est pas du tout pour... Il sait très bien que si le Christ, vous voyez, au fond, il n'a pas de connaissance de foi. Donc il ne sait pas que le Christ est fils de Dieu. Il se doute. Vous voyez ? Alors l'Apocalypse nous montre profondément qu'il ne peut avoir aucun pouvoir sur lui. Mais il s'approche du Christ pour savoir s'il est fils de Dieu. Vous voyez ? Et sachant s'il peut, oui ou non. Alors voyant, étant persuadé dans une foi angélique, non pas divine, mais la foi de l'être intelligent qui ne peut pas nier un fait. Il est en présence d'un être qu'il dépasse et qui ne peut être que fils de Dieu. Vous voyez ? Et c'est ce qui explique alors cette seconde stratégie. Ce fils de Dieu a un corps vulnérable. Si on ne peut pas toucher son âme, on l'attaquera par le corps. Vous voyez ? Et là, ça explique toute la stratégie que nous voyons ensuite, la bête de la terre et la bête de la mer. Et la bête de la terre et la bête de la mer nous montrent la grande stratégie du démon qui ne veut pas s'avouer vaincu. Alors cette stratégie, elle est vraie vis-à-vis du Christ, mais elle est surtout vraie vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de Marie, et vraie vis-à-vis de l'Église, la descendance de la femme. C'est des questions. Parce que je comprends que c'est difficile. Moi, j'essaie d'entrer dedans. Hein. C'est très difficile, que vous, parce que ça reste toujours le mystère de l'Apocalypse. Nous touchons un point qui, pour moi, est particulièrement important parce qu'il donne la clé de tout le reste. Mais ça reste quelque chose de très difficile à bien, bien préciser. N'est-ce pas ? Et on va à tâtons, on gratte à terre, et on essaie de comprendre. Alors je vais terminer, si vous voulez, jusqu'au chapitre 13, comme ça, ce sera le point de vue terminal. Donc, loin de la face du serpent, de la face du serpent. Parce que le démon cherche toujours à ce qu'on s'intéresse à lui. Il cherche qu'on s'intéresse à lui. Alors, l'intimidation du pouvoir, la ruse. Si on ne l'a pas par le pouvoir, on l'aura par la ruse. Vous voyez ? Alors le dragon se change en serpent. C'est extraordinaire ça. Et de loin de la face du serpent. Et le serpent jeta de sa bouche, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve, pour la faire emporter par le fleuve. Première astuce du serpent. C'est la ruse, hein. C'est plus la puissance. Le serpent, c'est jamais la puissance, c'est la ruse. Il joue. Un jeu anti-sagesse. La sagesse se joue dans la création et elle se joue. Et elle joue avec les hommes et particulièrement avec la femme, la sagesse, particulièrement avec Marie. Et le démon, alors lui, va faire cette espèce d'opposition, de jeu, d'anti-jeu de sagesse qui est montré ici, c'est très étonnant. Le serpent jeta de sa bouche derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour la faire emporter par le fleuve. Il y a toujours un lien entre l'eau et la femme. Et le démon le sait bien que c'est par là qu'il va pouvoir distraire la femme. Parce que ça, c'est une distraction. L'emporter. Et la terre vint au secours de la femme. La femme trouve un allié dans la terre qui vient de Dieu, la terre qui est bonne. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. La réponse de la femme à cette astuce, très étonnante. Et le dragon se mit en colère contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tint sur le sable de la mer. Et au premier moment, il est vaincu par la femme. La femme ne se laisse pas prendre. Alors quelle est cette astuce ? Ce n'est pas le dialogue, vous voyez, c'est plus l'interrogation, c'est un geste. À l'égard de la première femme, c'était un dialogue. À l'égard ici de la seconde femme, qui est plus loin, puisqu'elle est plus chef-d'œuvre de Dieu. Ce n'est plus par la parole, c'est par le geste. Et un geste curieux. Jeta de sa bouche derrière la femme, parce qu'il est derrière, il la poursuit. La femme court au désert, la poursuit, il ne voit pas sa face. C'est pas du tout un dialogue, c'est pas un face-à-face, c'est un tourne le dos. Alors il court derrière, de l'eau comme un fleuve. Alors, l'eau symbolise de la vie, puisque le symbolisme repose toujours sur une condition sine qua non pour que la réalité apparaisse. Et donc, le symbolisme de la vie, c'est l'eau. L'eau exprime toujours une source de vie. C'est dans ça que l'eau est liée à la femme. Parce que la femme est source de vie. Alors, je crois que c'est de faire croire, puisque la femme qui est enfantée, la femme qui est source de vie, faire croire que c'est lui qui est source de vie par rapport à la femme. Intéresser la femme de cette manière. L'eau symbolise de vie pour montrer, et de l'eau comme un fleuve, pour la faire emporter par la femme. Donc, détourner la femme en lui faisant croire qu'il est source de vie, que c'est lui, que ce n'est pas Dieu. Le faire de multiples manières, par son art, par son art à lui, par son geste qu'il invente. Et alors la réponse de la femme, et la femme, et la terre vint au secours de la femme, l'humilité de la femme, c'est pas les deux ailes. La poursuite du dragon, c'est les deux ailes de l'aigle. Et quand il s'agit du serpent, l'astuce du serpent, ce geste d'astuce, c'est la terre. La terre, c'est l'humilité. Hein, c'est le réalisme de la femme. C'est par la terre qu'elle découvre profondément ce jeu fallacieux, cet artifice du serpent. Et la terre vint au secours de la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. Montrer que l'eau, le fleuve qui jaillit du serpent, ce n'est pas un fleuve de vie. C'est un fleuve artificiel qui disparaît, comme toujours l'artifice, en face de la réalité. Et la réalité que peut atteindre la femme, c'est la terre. Elle est liée à la terre, parce qu'elle fait partie de cet univers. Vous voyez, la femme répond par ce réalisme qui conduit à l'humilité pour que le détournement fallacieux n'existe plus. En face de la réalité, on découvre ce qui est faux. On découvre ce qui est artificiel. Et c'est cet artificiel qui disparaît en face de ce réalisme de la femme. Et comme le dragon, alors c'est le dragon qui revient ici, hein. Et on identifie bien les deux du reste. Comme le dragon n'accepte jamais d'être vaincu, il n'a pas pu atteindre la femme, par le sommet ou par le bas. Comme le dragon ne peut pas avouer qu'il est vaincu, alors il recommence d'une autre manière sa lutte. Ce n'est plus contre l'enfant mâle, parce qu'il ne peut rien contre le Christ, mais c'est contre la descendance de la femme. Et la descendance de la femme, c'est l'Église, c'est nous. Et on précise que la descendance de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors nous verrons la fois prochaine, si vous le voulez, la stratégie de la bête de la terre et la bête de la mer.
Ce que vous venez de dire, on retrouve dans l'Ancien Testament toutes ces tentations, tous ces doutes sur la fécondité de la femme légitime.
Tout à fait. C'est vraiment, je crois, la grande lutte du démon vis-à-vis de la femme. C'est l'efficacité face à la fécondité. Je ramènerai ça philosophiquement et théologiquement à cela.
Mais on est encore en plein.
Ah, on est en plein, plus que jamais. On est plus que jamais parce que l'efficacité devient de plus en plus forte et devient rivale de la fécondité. Vous voyez ? Et alors c'est la grande lutte, ça. C'est vraiment ça qui est la ligne de partage entre les deux. La fécondité vient de l'amour et vient de la source de toute vie qui est Dieu. Et le point de vue de l'efficacité, ça vient de l'intelligence humaine, mais le démon peut s'en emparer. La qualité, la quantité, vous savez, c'est d'une autre manière. Parce que l'efficacité, la pure efficacité peut se servir uniquement de la quantité. Tandis que la fécondité est toujours du côté de la qualité.